Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
La panenka d'Abdoulaye fait que ce match est pour moi rentré dans l'histoire du club.
L'espoir, moi, objectivement, je ne l'ai jamais perdu.
L'unité de tout un groupe, tout un club, ça génère justement la chance, comme on dit.
Hello les amis, après Toulouse battue à Océane en infériorité numérique, d'aucuns se prenaient à rêver d'une fin de saison plus sereine pour le HAC, à l'opposé de 2025 et de ce maintien déjà culte validé à la dernière minute du dernier match. Mais un mois et demi plus tard, eh bien le cordon sanitaire entre le Havre et le premier barragiste s'est un peu relâché. Et ce sont justement les Océrois qui se présentent sur la pelouse havraise dimanche. Match important dont on parle aujourd'hui en mode club de la presse dans le débrief. J'accueille Benoît Donquel, journaliste à Paris-Normandie, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et à vos côtés, comme à chaque fois, mes acolytes, Mathieu Billot de Foot Normand, salut.
Salut à tous.
Et Luc Gallet du Courrier Cauchois, hello.
Salut tout le monde.
Faut-il s'inquiéter de voir le HAC calé? Peut-on espérer un rebond après la trêve internationale? Quel calendrier pour les concurrents des Ciel et Marines? Et ce match face à l'Égypte Auxerre peut-il d'ores et déjà être un tournant? On parle de tout cela et de bien plus encore dans votre podcast. Le débrief 100% HAC saison 2, épisode 14.
Je vous ai tenu un discours depuis un moment qui n'était peut-être pas plaisant à entendre, qui était de dire que on aura des jours compliqués. On est dans ces jours compliqués et il y a une réalité, c'est que le Havre a 5 points d'avance sur le barragiste. Et en fait, on est en train de tomber dans quelque chose d'ultra négatif parce que c'est vrai, on n'arrive plus à avancer, mais qui aurait pensé qu'on aurait 5 points d'avance sur le barragiste à cette journée de la fin ? Personne. Donc on a bien travaillé, on a mérité qu'il y ait des interrogations sur nous actuellement sur le fait de ne plus gagner, mais pour balayer tout ça, je dois aussi faire prendre conscience à mes joueurs qu'on a bien travaillé, qu'on va le faire, ne pas entacher leur confiance et attaquer le match face à Auxerre avec de la détermination, mais aussi de la sérénité.
Les mots de Didier Digard en conférence de presse au stade Jean Bouin, c'était dimanche 22 mars après cette défaite. Donc 3-2 face au Paris FC lors de la 27e journée des buts. Il y en a eu, on serait tenté de dire enfin, après 4 semaines muettes du côté du HAC, mais ça n'a donc pas suffi. Un point pris seulement lors des 5 dernières journées, les Havrais qui stagnent à la 14e place de Ligue 1 avec 27 unités, soit, on l'a entendu, 5 d'avance sur Auxerre, le barragiste. Alors messieurs, est-ce que vous êtes plutôt comme Didier Digard, vous voyez le verre à moitié plein, ou bien est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter? Vous le voyez à moitié vide, Benoît?
Je crois que voilà, dans un premier temps, il faut le voir à moitié plein. Le HAC 14e, c'est déjà un classement, on va pas dire flatteur, mais plutôt honnête, très honnête même, pour on va le rappeler une dernière fois, pour le club qui a sans doute le moins d'argent, c'est pas sans doute, c'est très certainement. Un club qui était condamné avant même la première journée, hein, tout le monde les voyait le HAC dans la charrette. Voilà, 14e à ce stade de la saison, pour moi c'est déjà une saison presque réussie. Alors maintenant il y a le sprint final, il va falloir en mettre un dernier coup, mais pour le moment le HAC a son destin en main. 5 points d'avance, ça veut dire qu'il y a encore un joker sur Auxerre. Alors faut pas tous les griller semaine après semaine, mais il n'empêche que pour le moment le HAC a son destin en main, et effectivement on peut penser que voilà, une victoire sur les Auxerrois, on en parlera peut-être après, suffira sans doute au bonheur des Havrais.
Ouais, donc Didier Digard a raison de rappeler, voilà, devant tout le monde, on a 5 points d'avance, il ne faut pas s'affoler.
Oui, non, faut surtout pas s'affoler, parce que encore une fois, le HAC est largement dans les temps de passage, voire au-delà des temps de passage, peut-être que même les dirigeants havrais avaient programmé. Voilà, encore une fois, c'est une saison pour le moment réussie. Alors effectivement, ça fait 5 matchs sans victoire, ça fait 1 point en 5 matchs, ça fait 2 buts en 5 matchs et 2 buts qui servent pas à grand-chose finalement. Mais il faut aussi préciser qu'à domicile, le Havre voilà, montre de très très belles choses. Il y a le Havre à l'extérieur qui a la ramasse totale, et le Havre à domicile qui tient vraiment la route.
Je vois Luc acquiescer.
C'est même un peu le contraire de la saison passée, où le HAC avait plus de difficultés à domicile et par contre à l'extérieur arrivait à emballer certaines rencontres. On a encore mémoire par exemple les succès à Lens ou à Lille. Donc là, effectivement, à l'extérieur, bah, c'est plus compliqué cette saison pour les joueurs de Didier Deschamps. Effectivement, sur l'aspect comptable, le hack est dans les clous. Par contre, sur l'aspect dynamique, bah, là encore, on est un peu sur une dynamique contraire à la saison passée, parce que sur la deuxième partie de saison de l'an dernier, on avait une équipe à Brest qui était quand même plus solide et plus consistante et qui arrivait à faire des coups. Là, pour le moment, c'est quand même plutôt l'inverse sur cette deuxième partie de saison.
Mathieu, quel avis ? Est-ce que non, le verre est à moitié vide ou à moitié plein ?
Pourquoi, selon Benoît, pourquoi ça cale ? Pourquoi ça cale depuis un mois et demi ?
Bah, je pense que déjà il y a eu ce mercato de janvier avec des recrues qui sont arrivées pleines balles. Ça a changé un petit peu le décor. Et puis peut-être que ces recrues-là, à l'image d'un Lucas Gourna, alors qui est toujours bien, mais je trouve qu'il est moins impactant qu'au tout début. Voilà, et peut-être qu'il cherche un second souffle. Hein. Faut aussi se rappeler que Gourna n'avait pas joué du tout de la saison avant d'arriver au Arc. Que Sofiane Boufal, alors qui apporte toujours un plus, hein, mais
qui est encore décisif sur le but.
Tout à fait. Oui, non, c'est un joueur pour le Arc, c'est un joueur exceptionnel. Mais c'est peut-être des joueurs qui là ont besoin de retrouver un second souffle. Peut-être que cette trêve va leur faire du bien. On aura la réponse dimanche. Maintenant, voilà, c'est le hack aussi. C'est pas un effectif. Alors c'est un effectif large en quantité, mais en qualité, il n'y a pas non plus la qualité qu'il peut y avoir à Auxerre, notamment. Il était peut-être écrit qu'il y aurait une période compliquée. C'est la première vraie période compliquée. Alors ça tombe mal, effectivement, parce qu'on est dans la dernière ligne droite. Mais c'était peut-être prévisible qu'il y ait un moment où ça s'essouffle un peu.
Est-ce que les absents pèsent? Bon, récemment c'était, on peut parler de Gauthier Loris, mais bon, avant il y a eu Moseko. En fait, c'est rare où l'effectif, en tout cas les 15 joueurs qui peuvent vraiment prétendre à une place de titulaire, ont pu postuler en même temps.
Ah bah c'est sûr que si on prend juste le cas Gauthier Loris, qui est le défenseur incontestable, incontesté, c'est le pilier du 11. Quand il est pas là, ça se ressent, et ça se ressent d'autant plus que quand il est pas là, Ayew Mousseko redescend d'un cran. Alors certes, défenseur central, c'est la place d'Ayew Mousseko, mais on l'a vu s'épanouir en milieu de terrain, et effectivement ça oblige Liguerre à revoir un petit peu alors pas forcément son schéma, mais voilà, quand Seco est pas là au milieu, ça se ressent.
Et un petit mot quand même, moi je trouve, en tout cas, je crois que Célier faisait référence sur le manque de buts, parce que pour gagner des matchs, il faut marquer des buts, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Et là aussi ça cale sévère, parce que mine de rien, l'année dernière, alors dans une saison totalement différente, mais le renouveau du hack sur la deuxième partie de saison avait été aussi un renouveau offensif. Et là, on a l'impression, malgré l'apport de Boufal, mais qui n'a pas encore marqué, hein, si je me trompe pas.
Non, il n'a pas marqué.
Il y avait aussi l'apport des jeunes, hein, qui étaient en Obougou, qui avaient apporté un petit souffle début janvier notamment. Là, j'ai l'impression que ça cale sévère. Quand même.
Bah, ça cale. Bon, concernant les jeunes, Obougou, on le voit plus trop. Quétan, faut être aussi patient. Alors effectivement, contre Angers, il avait fait un super match, il met un joli but. Maintenant, on a vu aussi une autre facette de Quétan, hein, qui est un jeune joueur. On l'a vu à Brest où il a eu du mal à exister, hein, athlétiquement, il s'est fait manger. Donc faut pas compter sur les jeunes. Maintenant, sans doute qu'il aurait fallu un attaquant tout neuf au mercato d'hiver. Alors on nous a dit que c'était une légende urbaine. Pour moi, c'est pas du tout une légende urbaine. Je sais que l'entraîneur aurait réellement aimé avoir un attaquant supplémentaire, ce qu'il avait obtenu la saison dernière avec Ahmed Hassan, alors qui est pas le soulier d'or, hein, Ahmed Hassan,
non, mais qui avait marqué 4-5 buts,
qui a marqué des buts importants,
décisifs,
pesait dans la surface, et c'est un joueur de profil que Deschamps n'a pas cette saison, parce que tout le respect qu'on peut avoir sur le tout puissant Ali Samatta, ça fait plus d'un an qu'il a pas marqué, et on le voit, il décroche. Alors dans l'état d'esprit, effectivement, il est là, parce que je pense que c'est un bon pro.
Il y a quand même une tête un peu là en fin de match face au PFC, où on se dit peut-être, et puis ça
n'est
pas rentré.
Ouais, il a eu quelques occasions cette saison où parfois ça, il y a eu un manque de réussite, mais autant au début de saison on le voyait vraiment peser dans le jeu, il allait au duel, on le trouvait en pivot, là de toute façon il a perdu sa place de titulaire, et quand il joue, c'est pas foufou.
Ouais, c'est pas là le plus inquiétant quand même pour le HAC cette saison, voilà, de pas vraiment avoir de solution offensive, quoi. Du coup, c'est, notamment sur l'approche de ce sprint final, on sait vraiment pas qui mettre devant. D'ailleurs, on l'a vu encore au Paris FC, il essaye Mambimbi, mais ça donne aucun effet. Il est même remplacé avant la pause. Enfin,
bah, Mambimbi, clairement, il est pas au niveau. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est pas encore au niveau? Est-ce que un jour il sera au niveau? Voilà, c'est un jeune joueur qui a du talent, hein, parce que en Suisse il a explosé très très jeune. On lui promettait un très très bel avenir. Bon, finalement il a un peu disparu des radars, il arrive pas à se relancer. Athlétiquement, il est pas du tout au niveau de la Ligue 1. Si on prend Kiremé, c'est pareil. Alors certes, il a mis son premier but en Ligue 1, face au Paris FC. oui,
l'ancien Malherbiste.
qui était pas titulaire à Caen, hein, donc fallait peut-être pas s'attendre à beaucoup d'étincelles.
Non, c'est des joueurs de complément, ça.
C'est des joueurs de complément, mais voilà, quand Didier Digard les lance, on voit pas grand chose de plus, il y a pas d'effet parce que athlétiquement ou techniquement, ces deux joueurs sont pas encore au niveau. Alors les jeunes sont encore un peu verts. Samata n'est plus au niveau, reste Issa Soumaré. Alors Issa Soumaré, on sait qu'il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas un pur buteur, mais ça reste l'arme offensive la plus tranchante.
Est-ce que la trêve internationale peut faire du bien dans les têtes? On en parlera peut-être après plus en parlant de Auxerre. Ou est-ce qu'à contrario, ça peut aussi être un truc qui occupe un peu l'esprit des joueurs dont on sait pour certains qu'ils envisagent et qu'ils aimeraient beaucoup être sélectionnés pour la Coupe du Monde?
Là, je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Non, mais je pense que déjà, ça, pour ceux qui étaient pas en sélection, ça fait du bien de souffler un peu, de couper. Il y a même pas eu de match amical organisé le week-end dernier. Voilà. Alors, ça veut pas dire qu'ils ont rien fait, hein, mais voilà. On peut se ressourcer un peu psychologiquement, un peu physiquement, parce qu'il y a peut-être des joueurs qui commencent aussi à tirer la langue. Il y a des joueurs qui ont qui ont été appelés assez souvent par Didier Digard. Donc voilà, il va falloir un peu de fraîcheur aussi pour cette dernière ligne droite. Ce qu'il y avait eu la saison passée, on avait senti des Havrais physiquement prêts à aller au bout du bout. C'est ce qu'ils ont fait. Donc on va voir comment les joueurs vont ressortir de cette trêve. Mais je pense qu'elle a fait du bien. Ouais.
Est-ce qu'on a raison de comparer les saisons, et est-ce que quand on est un suiveur du HAC comme vous l'êtes Benoît depuis des années, parfois il y a des saisons qui entrent en résonance. Je sais qu'on parlait, on évoquait la saison 2002-2003 où il y a eu une série de défaites, hein, c'est ça, en fin de saison, et où
défaites,
une descente à l'arrivée.
Je crois que Benoît s'en rappelle bien du coup.
Ouais, on s'en souvient parce que avant le coup d'envoi de cette sombre série, on se mettait à rêver d'Intertoto. À l'époque, il y avait l'Intertoto. Les plus jeunes ne connaissent pas, mais
voilà. Là, on vient de perdre quelques auditeurs.
Là, le coup de vieux est monumental.
Il y avait l'Intertoto, et déjà une qualification d'Intertoto pour le HAC, ça aurait été un réel exploit. Et puis, tout s'est dégradé à la surprise générale. Je pense qu'on peut pas comparer. On peut pas comparer parce que l'effectif n'est pas le même, l'entraîneur n'est pas le même. Hein. À l'époque, c'était Jean-François Demergue, donc tout le monde sait que j'apprécie énormément Jean-François Demergue.
On n'a pas d'image.
Il n'est pas là, donc c'est bon.
Ouais, non, mais je pense que là, non, entre Didier Digard, entre Mathieu Bonnemer et même le président Roussy, enfin voilà. Le groupe est suffisamment bien encadré pour pas décrocher totalement. Maintenant, il va falloir sortir de l'autre chauffe-eau, effectivement.
J'ai pas entendu Mathieu sur le verre à moitié plein ou moitié vide. J'aimerais avoir votre sentiment. Est-ce que Didier Digard a raison, de rappeler?
Alors, dans sa communication, je pense qu'il a totalement raison, parce que ça reste les conférences de presse, ça reste avant tout un exercice de communication. Donc, s'il arrivait devant les médias et donc devant les supporters, comme les médias sont avant tout les relais des supporters, en disant c'est la catastrophe, on est en panique. Je pense pas que c'est un discours qui passerait. Donc voilà, il rappelle des choses factuelles mais qui sont vraies. Qui aurait cru en début de saison que le Havre, à l'issue de la 27e journée, compterait 5 points d'avance sur le barragiste, même pas en position de premier non relégable d'ailleurs. Sa communication, je trouve qu'elle est quasiment parfaite. Et après, forcément, soit elle se heurtera au prochain résultat ou pas, on va y venir, mais en tout cas voilà, mais c'est toujours après, c'est au prochain match, ça tient jusqu'au pour moi, ça tient jusqu'au prochain match. Et puis à un moment, bah, si vous gagnez, bah, la saison sera quasiment pliée. Et si vous perdez, bah, on va rentrer dans des matchs vraiment coup près, comme le HAC a connu la saison dernière.
Sachant que le maintien cette année peut se jouer à combien de points
Bah, c'est toujours pareil, la moyenne, si on fait des moyennes, Auxerre, ils sont sur 27-28 ouais. De moyenne, donc c'est peu, mais on sait toujours que les équipes du bas de tableau, en général, la moyenne elle accélère. Et la vérité est vraie pour le Havre, on aurait pris la moyenne du Havre après 22 journées, elle aurait été bien plus haute qu'aujourd'hui, vu qu'ils ont pris qu'un point sur 5, sur 5 matchs. Donc voilà, donc encore une fois, l'année dernière c'était 34.
Moi, je pense qu'à 32, 33.
Oui, ça devrait passer. Après, voilà, on va attendre les 2-3 prochaines journées pour y voir un petit peu.
Ouais, voilà, c'est ça.
Un petit peu plus clair parce que, il y a des matchs importants, il y a des confrontations directes, un peu partout. Donc, je pense que, d'ici 2-3 journées, on va y voir un petit peu plus clair.
Il n'y aura pas de révolution parce que je trouve pas que l'on soit dépassé par les événements ou qu'il y a des matchs où on soit inexistant. Donc, on doit juste tenter de s'améliorer, de corriger les erreurs qui, sur nos deux matchs derniers ou trois à l'extérieur, sont vraiment grossières. Donc, ça, c'est vraiment à gommer. Ensuite, s'appuyer sur le soutien populaire et nos supporters pour faire un gros match contre Auxerre.
Vous écoutez toujours le débrief 100% qu'on entendait à nouveau Didier Digard face à vous, entre autres Benoît, en conférence de presse après ce match face au Paris FC. Pas de révolution, il dit. Néanmoins, est-ce que c'est en tout cas un tournant ou pas? Ça pourrait être un tournant, en tout cas dans cette saison, ce match face à Auxerre dimanche au stade Océane.
Ah bah clairement. Clairement, que ce soit pour le Havre ou pour Auxerre, ce match, il compte double, il compte triple. Faut se souvenir que au match aller, le Havre l'avait emporté à l'Avenue des Champs et ça avait été le réel début des problèmes pour les Auxerrois. Parce qu'ils comptaient vraiment sur ce match face au Havre, pour enclencher une vraie belle dynamique. Finalement, ça a été l'effet inverse. Et là, je pense que les Auxerrois ont encore ça en tête et ce match, ils le prennent également, comme un match décisif. Parce que je pense qu'une défaite d'Auxerre au stade Océane condamnerait peut-être pas Auxerre à la relégation, mais au moins, je pense que Auxerre aurait des difficultés à échapper au barrage. Ils viennent de battre 3-0 Brest à 10 contre 11, donc je pense que pour eux, par contre, cette trêve, je pense, peut faire du mal. Parce que quand on gagne un tel match à 10 contre 11, 3-0, voilà, c'est leur victoire un peu référence de la saison. On a envie d'enclencher tout de suite derrière et finalement là, le soufflet retombe, des gars partent en sélection, donc pensent un peu à autre chose. Et je pense que pour Auxerre, cette trêve, je pense, à mon humble avis, pourrait avoir fait du mal. Ouais.
Ça fait longtemps qu'on regarde cette équipe d'Auxerre en se disant que c'est certainement celle qui est la plus... le plus attentif et la plus menaçante pour le HAC, Mathieu.
Oui, parce qu'elle a un point commun avec le HAC de la saison dernière, c'est qu'elle a gardé son coach. Et on a bien vu que la saison dernière, ça pouvait contribuer à obtenir un maintien quand quasiment tous les autres clubs du bas de tableau, à l'exception d'Angers, ont changé. Paris FC a changé, Nantes vient de changer, Metz a changé, Nice, dans une saison chaotique, on va dire, a changé. Moi, je crois beaucoup à ça. Je pense d'ailleurs, in fine, que je pense qu'Auxerre s'en sortira. Pas forcément dimanche au stade Océane, mais à l'issue des 34 journées ou du barrage. Maintenant, comme a dit Benoît, moi, je pense que pour Auxerre, c'est une vraie finale de maintien. Dimanche. La différence avec le HAC, c'est que c'est peut-être une finale, mais s'il y a défaite, il y aura une autre finale la semaine prochaine contre Nice, et éventuellement, il y aura une autre finale à Angers, et peut-être une autre finale contre Metz. J'allais dire, il manque que 2 victoires au HAC. C'est énorme, forcément, 2 victoires. Mais même, j'ai presque envie de dire, c'est du gain petit ce que je veux dire, mais ne pas le perdre, un point, et conserver cette avance de 5 points. Il reste plus que 7 journées, donc au bout d'un moment, 5 points, c'est aussi énorme. Donc la pression, elle est sur Auxerre. Alors ça peut-être les décomplexer, parce que contre Brest, ils avaient aussi la pression et ça les a pas empêchés de faire un super match. Et il y a le facteur quand même, jouer au stade Océane. Je regardais, il y a quand même 21 points sur 27 qui ont été pris au stade Océane. Il y a une vraie atmosphère, je trouve, qui se dégage de soutien, on va dire, autour de l'équipe. Et voilà, je pense que c'est vraiment là, faut presque valider le maintien dimanche pour le HAC.
Ouais, la pression est plus sur les épaules de toute façon des Auxerrois, ça c'est indéniable. Et le réel enjeu pour eux, ça va être de grappiller justement ces points pour leur permettre de, bah, pourquoi pas espérer une 15e place. Donc oui, la pression elle est plutôt sur la GIA, mais je serais tenté de dire, pour moi le vrai objectif de ce match-là pour le HAC, c'est pas le perdre celui-là. C'est plus que même. Bah, après effectivement tu gagnes, tu te mets dans des très bonnes dispositions pour le maintien, mais surtout ne pas le perdre parce que là ça relancerait tout pour l'optique de la place de barragiste et ça nous mettrait en sous pression jusqu'au bout. Donc ouais.
Après, il y aurait les fameux matchs couperets que Benoît aime tant dans cette fin de saison, comme Benoît n'aime pas les fins de saison sans réel objectif.
Mais c'est triste, c'est fade une fin de saison sans objectif. Non, mais quand je parle de matchs couperets, on en parlait hors antenne tout à l'heure. C'est bon, on a eu le scénario de Strasbourg la saison passée.
Ça a suffi pour
nous.
La saison de la montée, au niveau match où on s'attendait à ce que ce soit plié et puis ça ne l'a pas été et puis on a attendu, on en a eu aussi.
Oui, par exemple,
on a été
Bastia,
servi.
Ouais.
Non, mais il faut qu'il y ait un petit peu de piment quand même sur cette fin de saison. Maintenant, effectivement, moi je pense que si le Havre bat au Serre, je pense que pour le maintien, c'est quasiment plié.
Ouais,
voilà,
c'est
je pense qu'on peut être raisonnablement confiant parce que, bah, comme on l'a dit, à domicile, le hack est à la hauteur, le hack engrange les points qu'il faut. Et puis, en termes de contenu, on voit toujours des choses plutôt sympas. Enfin, voilà, on a pas vu de match sans relief cette saison au stade Océane. Le dernier rendez-vous, c'était face à Lyon avec cette deuxième mi-temps quasiment traversée dans son intégralité à 10 contre 11. Mmh. On a vu des choses, même à 10, le HAC a essayé. Alors, certes, Lyon, on peut dire que Lyon est un peu, en ce moment.
Ils sont à l'arrêt, là.
Comptablement. Ça reste Lyon quand même, et à 10 contre 11, je trouve que le HAC a fait preuve d'audace quand même, et à un moment donné, je pense que face à une équipe comme Auxerre, si le HAC est audacieux, si le HAC est coquin, ça passera.
Mathieu.
Je vais faire un peu de foot fiction, ce qui n'est pas très bien d'ailleurs. mais tout à l'heure, tu parlais que l'équipe était bien encadrée avec le président Roussier, avec Mathieu Bonnemer, avec Didier Digard. Est-ce que toi, Benoît, en tant que journaliste qui suit de très près l'équipe, tu penses à l'après? Alors l'après, c'est pas forcément, ça peut être l'après, c'est demain. On sait que Didier Digard est en fin de contrat. Il y a aussi l'après demain. Je crois que Mathieu Bonnemer, il lui reste un an de contrat, si je me trompe pas, c'est 2027.
Hein.
C'est ça. Est-ce que tu et on faisait référence à certains joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat et non des moindres. Arouna Sangante, Gauthier Lloris, Yacine Keshta, Abdoulaye Touré, Issa Soumaré. J'en oublie certainement d'autres. Est-ce que déjà toi, même professionnellement, tu penses déjà un petit peu à l'après et à te dire c'est très bien ce que fait le HAC cette saison? Mais il faut déjà avancer peut-être les pions. Alors ils sont certainement déjà avancés en coulisses, mais que toi tu te dis ça va donner quoi la saison d'après si on repart en Ligue 1, avec quel coach, avec quel joueur, est-ce que Mathieu Bonnemer va se réengager sur une période de moyen terme?
D'abord la première question c'est si le HAC repart en Ligue 1, avec quels moyens? Avec quels moyens? Parce que pour le moment, certes, Blue Crow a comblé une partie du déficit. Alors combien, on n'en sait strictement rien. Mais ce qui est pour le coup logique. Voilà, on rachète un club, on comble un petit peu le déficit, etc. Mais il reste un trou financier. La dernière DNCG, celle du mois de novembre, n'a rien d'annoncé de très bon, puisqu'il y a toujours eu un encadrement de masse salariale, une interdiction de recruter à titre onéreux, je sais plus comment.
Ouais. C'est presque interdiction de recruter des transferts payants, quoi, en fait.
C'est ça. Donc, comme au printemps dernier, donc on va suivre de près les décisions de la DNCG, soit fin mai, soit début juin, je sais pas quand est-ce que le HAC passera. Mais pour le moment, je crois savoir qu'en interne, on ne voit pas d'argent arriver pour la saison prochaine. Ce qui veut dire que, encore une fois, il va sans doute falloir à Mathieu Bodmer, à Momo Elkaraz et puis aux scouts un peu partout aller piocher des joueurs à zéro. Voilà, à zéro, avec très certainement, encore une fois, une masse salariale encadrée, limitée. Donc, il va encore falloir faire des paris. Je parle en l'état, hein. Peut-être que d'ici 2-3 semaines, un mois, il y aura une belle surprise. Le grand patron de Blue Crow est venu au club il y a peut-être un mois et demi de ça, a demandé aux dirigeants et à l'équipe technique ce dont ils avaient besoin. Alors, forcément, ils n'ont pas besoin de ballons, pas besoin de chasubles. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont juste besoin d'argent pour construire une équipe parce que comme tu l'as dit, il y a pas mal de joueurs en fin de contrat. Ouais. Et je pense que tant qu'il y aura pas d'indice sur les moyens donnés au HAC pour la saison prochaine, Didier Digard ne pourra pas dire OK, je reprends pour 2 ans quoi. Non, au bout d'un moment, Digard il va vouloir essayer de construire une équipe avec un petit peu de moyens. Mathieu Bonnemer essayer d'aller recruter des joueurs avec un peu de moyens et puis des salaires enfin dignes de la Ligue 1, parce que là je pense que c'est indigne de la Ligue 1 hein, ce que propose le HAC. Alors en janvier, le club arrive à faire des coups sur des joueurs qui veulent se relancer tout de suite.
Toujours, la grande spécialité.
Mais l'été, on l'a vu l'été dernier, c'est plus compliqué.
C'est des Godson Kiremé, c'est des Félix Mandy.
Voilà,
des coups.
C'est des paris.
C'est des coups, hein.
Paris,
c'est des Namli déjà reparti, c'est Pizarro déjà reparti, le latéral gauche, dont je me souviens plus.
Thomas Delaine
déjà reparti. Après, c'est aussi un Seco, où là, c'est une super pioche, c'est le duo Mpassi, super pioche également. Voilà. Doucouré, je pense que
bonne pioche,
je pense que la saison prochaine
ça peut être
une belle surprise, donc voilà. Mais je pense que pour uniquement parler de Digard, je pense que si on lui garantit pas un minimum de moyens, il demande pas à ce que d'ouvrir le robinet,
coule
que ça coule de partout. On sait que c'est pas les Saoudiens qui sont là, ni les Qataris, mais il y a un minimum. Je veux dire, si Blue Crow a racheté le HAC, à un moment donné, c'est pour essayer aussi de faire progresser ce club, parce que là, avec zéro, au bout d'un moment, la corde, elle cassera, même si Bonnemer fait des miracles, même si Lucas Elsner et Didier Digard ont fait des miracles sur le banc, parce qu'il faut pas oublier aussi que l'année de la montée, le HAC n'est pas du tout favori pour remonter en Ligue 1. C'est pas le plus gros budget de Ligue 2. Enfin, de mémoire.
C'est même totalement une surprise.
De mémoire, je me demande si c'est pas le 7e ou 8e budget de Ligue 2. Donc,
7e, je crois.
Ouais. C'était quelque chose comme ça. Donc, le Elsner a fait des miracles, Digard a fait des miracles, Bonnemer fait des miracles. Je pense qu'en haut lieu, Roussier aussi essaie de faire des miracles.
Des incantations.
Mais non, mais voilà, c'est ça. Donc, à un moment donné, si Blue Crow ne met pas un peu d'argent pour que l'équipe puisse progresser un petit peu, ça va devenir compliqué. Et ça, il faut que les gens vraiment en aient conscience. Que fait le HAC depuis 3 saisons maintenant en Ligue 1, c'est exceptionnel. Exceptionnel.
Et justement, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de prise de position, par exemple, d'un Jeff Luno, qui n'annonce rien, clairement, depuis qu'il est arrivé quasiment au HAC, moi, j'ai l'impression que c'est quand même pas forcément des plus rassurants, et ça n'incite peut-être d'ailleurs pas Didier Digard à prolonger son bail, non?
Je pense qu'en l'état, si Didier Digard n'a toujours pas prolongé son contrat, c'est que pour le moment,
il n'a pas eu
les garanties espérées. Enfin, voilà, moi, il me l'avait dit en off, il veut pas être celui qui va faire descendre le HAC. Et il sait très bien qu'avec zéro, au bout d'un moment, ça bosse très bien, ça bosse sérieusement. Ils ont toujours la chance d'avoir un groupe avec un super état d'esprit, et ça aussi, c'est quelque chose à mettre en avant, parce qu'il y a la qualité du joueur, mais il y a la qualité des hommes aussi qui recrutent. Et franchement, ça fait 2-3 ans ou 3-4 ans maintenant que, en termes d'état d'esprit, ils ne se trompent quasiment jamais. Mais ça ne suffira pas. Au bout d'un moment, effectivement, la corde, elle va casser. On peut pas continuer comme ça.
Et je rebondis sur le terme financier. Est-ce qu'un garçon comme Stéphane Zagadou, et dans une moindre mesure Kenny Kaitan, car il n'a pas signé aujourd'hui, détient l'avenir du HAC? Alors, c'est faire peser beaucoup de responsabilités sur un jeune homme de 17 ou 18 ans, je ne me rappelle plus exactement quel âge il a, mais on sait qu'aujourd'hui, les valeurs marchandes qu'on peut avoir dans un club formateur comme le HAC, c'est justement ces jeunes formés au club, que Stéphane Zagadou, il a une cote de fou, hein, je crois que tu as consacré
17 ans.
Quelques articles, 17 ans, merci Célia. Dans une moindre mesure, Kenny Kaitan, s'il signe pro, même si on arrive fin mars, début avril.
C'est inquiétant pour Kaitan, parce que.
En général, tous les joueurs qui n'ont pas prolongé ou signé, peu importe le club, c'est pas spécifique au HAC, Ça sent pas bon.
Est-ce que les conseillers attendent de savoir si le Hack sera réellement en Ligue 1 ou pas la saison prochaine? Parce que ça se comprend aussi. Hein.
Oui, oui.
Voilà, pour le jeune, le projet n'est pas le même si le Hack est en Ligue 1 ou si le Hack est en Ligue 2. Moi, je pense que si le Hack est en Ligue 1, c'est un projet taillé sur mesure
pour un garçon comme jeune.
Voilà, c'est ça. Mais oui. Comme il y a pas beaucoup d'argent, forcément, il y a des places à prendre pour les gamins. Mais oui, c'est les jeunes. On peut parler de Kofi également. Hein. C'est aussi des gamins qui, je pense, seront sollicités cet été. Et si effectivement Blue Crow ne met pas d'argent, mais espère en récupérer via les transferts. Ça va être les jeunes, hein. C'est clair que voilà, ça va être les jeunes. Ça peut être à Ayoumou Seko également en fonction de la Coupe du Monde, parce qu'il va faire la Coupe du Monde. Le Japon a une équipe qui est plutôt sympathique à voir jouer. Là, il était titulaire l'autre jour face à l'Écosse. Donc là aussi, c'est une valeur marchande. Il a signé 3 ans, hein, donc là, il lui restera 2 ans. Donc c'est pareil, hein, en termes de transfert, plus il reste d'années de contrat à racheter. Plus ça monte, mais oui, les jeunes, effectivement, on peut craindre qu'un Zagadou soit appelé à prendre le large.
Craindre ou presque l'espérer.
Moi, je crains parce que voilà, sportivement, c'est dommage.
Ce serait une perte.
On voyait le Hack en Ligue 2 sortir quelques bons jeunes et puis les vendre aussitôt, voilà, à peine ils avaient joué avec les pros, déjà ils étaient partis, mais on nous expliquait que ben voilà, en Ligue 2 c'est compliqué de conserver les jeunes, et ça s'entend. On espérait quand même qu'en Ligue 1 les gamins puissent rester au moins 2-3 ans peut-être, au moins 2 ans. Mais là, comme le Hack, mais pas que le Hack, hein, tous les autres clubs, on l'a vu avec Marseille, hein, les Diaz, Bacola, dès qu'ils ont sorti un peu le bout de leur nez, boum, allez hop, on vend.
Bah, et c'est parti. Par exemple,
donc si un club comme Marseille n'est pas capable de garder ses meilleurs jeunes pour des raisons financières, on peut penser que le Hack n'arrivera pas à garder ses meilleurs jeunes. Donc, on peut l'espérer pour la pérennité financière du club.
Même pour construire le club de demain.
Mais
la tête de l'emploi de... Je crois que c'est quoi la meilleure vente du Hack? Est-ce que c'est Kadewere ou c'est...
Je crois que c'est Kadewere. Ouais, 12 millions. Il y a du Kadewere. Bon, Mahrez est pas très très loin avec les bonus qui avaient été...
Je trouve que Zagadou a le profil, dans le football actuel, a le profil à 15-20 millions d'euros.
Ouais, alors ouais, 20, ça me paraît quand même beau, ça me paraît un peu, ouais, ça me paraît
ouais,
beaucoup.
Je m'emballe.
Je respecte tous les défenseurs, mais c'est un défenseur, c'est pas.
Ouais,
c'est,
mais quand on voit que
Jacquet, plus de 70 millions.
Mais Jacquet a un petit peu plus d'expérience qu'un Zagadou. On n'est pas à l'abri non plus d'une folle proposition. Maintenant, faut pas oublier que le Hack a des problèmes financiers et que dans les négociations, ça compte également. Hein, voilà, c'est. Écoutez, vous en voulez 15, ça sera 8 parce que
tu seras bien content.
Caricature, mais vous avez 8 millions, c'est déjà pas mal pour vous. Donc, mais c'est compliqué, comme tu disais, pour reconstruire derrière. Oui, mais en fait, on reconstruit tout le temps parce que dès qu'un joueur sort, on le vend. Donc, bon, on a de l'argent pour reconstruire, mais si on prend un autre joueur qui est bon, on le revendra parce que. Donc, faudrait au moins essayer, je sais pas, est-ce que dans les projets de Blue Crow, c'est ça, au moins essayer de construire sur 2-3 ans, voilà, essayer de garder. Alors, effectivement, si on a un joueur qui demande à 25 millions d'euros, on le vend.
Mais tu l'as fait quand même, ça, construire sur 2-3 ans, on cite, Loris, du coup, il a fait quoi, 4 saisons?
Ouais, Loris, ouais.
Kechta, il est là aussi dans le groupe Pro depuis 4 saisons, Sanganté aussi. Bah, c'est déjà, je trouve ça.
Alors ça, il y a aussi.
Extrêmement rare de ce noyau.
Il y a des joueurs formés quand même.
De ce noyau. Alors, ce noyau, soit recruté en Ligue 2, soit formé au club et certains rattrapés par le bout de la capuche par Mathieu Bonnemer et son équipe.
Yacine
Kechta et Casimir à l'époque, même si aujourd'hui, José Casimir est parti. Donc, on le retrouvera dimanche au Stade Océane dans le camp d'en face. Mais il y a eu quand même ce noyau-là. Bon, là, on a l'impression qu'il est un peu peut-être en fin de parcours, pas qu'il soit à bout sportivement, mais.
J'ai envie de voir autre chose aussi, peut-être.
Aller voir autre chose. Et puis, les contrats font que, tu disais, les contrats sont peut-être pas exceptionnels à l'échelle d'un joueur pro de Ligue 1 au Hack, et qu'une carrière, c'est 6-7 ans en moyenne. Donc,
Alors, il y avait eu aussi cette, ce parti pris de ne vendre personne entre la saison de Ligue 2, la saison de Ligue 1 et la saison de Ligue 1.
Je demande juste à Benoît de laisser tranquille ma table du studio.
Ah, excusez-moi, je suis vraiment désolé.
Ça, ça arrive de temps en temps.
Elle est très maltraitée. Est-ce que tu fais un point commun avec Jean-Michel Rousset qui aime bien aussi maltraiter la table voilà. D'ailleurs.
Donc voilà, les auditeurs, le bruit que vous entendez de temps en temps.
Parce que c'est la passion.
C'est la passion. C'est ça.
On parlait de Casimir, juste un petit mot, parce que pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, à Auxerre, est-ce qu'il joue ? Est-ce qu'on pourrait le voir justement sur le terrain dimanche ou pas, Josué Casimir ?
Bon, il sera dans le groupe. Il sera dans le groupe, maintenant titulaire. Il l'a été en début de saison, et puis il a perdu sa place, il l'a regagné, il l'a reperdu. Je crois qu'il a beaucoup de mal à s'intégrer à Auxerre. Il fait pas une saison exceptionnelle, hein, José Casimir. Hein, c'est pour le moment, c'est un but et aucune passe. Pour un milieu offensif, c'est compliqué. Alors effectivement, au Havre, tout le monde l'aimait bien parce que bah, déjà c'était un gamin de la KV, hein, le fameux Made in KV. Mm-hmm. C'est quelqu'un sur le terrain qui donne de sa personne. Hein, les courses à haute intensité, il sait ce que ça veut dire. C'est un couteau suisse. On peut le mettre à droite, à gauche, derrière, devant.
Même en piston, en arrière.
C'est. Mais voilà, en arrivant à Auxerre, il arrivait avec le statut de recrue. Et là, pour le coup, ils attendaient beaucoup plus. Une recrue, c'est fait pour pas uniquement étoffer un effectif. Une recrue, c'est fait pour apporter un plus à un effectif. Et ça, il est passé totalement à côté.
J'ai l'impression qu'il est peut-être pas forcément dans le système. C'est pas forcément un système qui lui correspond super bien. D'ailleurs, celui de la GIA actuelle, d'ailleurs, je trouve.
Enfin, c'est possible. Et puis voilà, il symbolise aussi les difficultés offensives de la GIA Auxerre, parce qu'on parlait des Havrais qui ne marquaient que très peu de buts, mais on a nos compagnons de la cave du classement des meilleures attaques. C'est Auxerre, hein. Voilà, c'est les deux plus faibles attaques.
Les deux plus faibles attaques. Ouais.
Donc,
ils ont 3,5 pions contre Brest.
C'est ce que j'allais rappeler.
Ouais, tout à fait.
Sauf que
à domicile, le Hack marque un petit peu plus. Hein. À l'extérieur, je crois de mémoire, c'est 7 buts, donc 4 qui servent à rien. Ça ne sert jamais à rien de marquer.
Pas compter, quoi.
Mais voilà, comptablement, ça n'a strictement rien apporté. Mais je pense qu'on va avoir du spectacle quand même. Je pense. J'ose espérer d'ailleurs que le stade sera plein parce que...
Pour un match comme celui-là, ouais.
Ben ouais, parce que ça se bouscule toujours pour le PSG, pour l'OM, aller voir pour Lyon, pour Monaco, mais c'est là où il faut que les gens viennent au stade parce que c'est... s'ils veulent revoir effectivement le PSG, Marseille, Lyon la saison prochaine, et ben c'est des matchs comme ça qu'il faut gagner et c'est à ce moment-là qu'il faut,
Faut
être derrière l'équipe.
J'ai pas de petits sons à vous passer, mais on voulait parler un peu des internationaux. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais le Hack a cette particularité quand même d'avoir pas mal de joueurs qui vont en sélection, que ce soit chez les jeunes avec l'équipe de France ou évidemment dans les équipes A et notamment Lionel Passy. Alors on peut pas, à l'heure où on enregistre, il a pas encore joué, hein, donc le gardien du Hack avec le Congo. Donc on ne sait pas s'il sera à la Coupe du Monde à l'heure où on enregistre, mais un regard peut-être sur ces internationaux et notamment on parlait de par exemple à Youmou Sekko, il venait au Hack vraiment avec cette envie aussi de se relancer et de se lancer avec le Japon.
Bah, il était déjà international, mais voilà, je pense qu'il avait pas, il bénéficie pas d'un gros statut au sein de la sélection. C'est marrant parce que nous, on nous avait vendu, c'est pas moi, mais c'est David Poinel, mon confrère, qui avait pu échanger au moment de la signature de Sekko avec un journaliste suisse, qui nous parlait d'un bon petit joueur, légèrement bouché, un joueur qui prenait carton sur carton, enfin.
Pas du tout le Sekko qu'on.
Non, pas quelqu'un qui faisait vraiment parler de lui par son talent en Suisse. On s'est dit waouh. Bon, on savait que Mathieu Bonnemer rêvait depuis longtemps d'attirer un joueur japonais. Là, on s'est dit on va attendre et voir. Et finalement, on a découvert un joueur qui est arrivé un peu sur la pointe des pieds, voilà, parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Il a voulu, je pense, prendre la température un peu partout et. Et une fois qu'il s'était intégré, et il s'est intégré très très vite, on a découvert un top joueur, vraiment un top joueur, comme on le disait tout à l'heure, que Digard a fait monter d'un cran. plutôt milieu de terrain, parce qu'il faut se souvenir que Seco était arrivé dans l'optique d'un possible départ d'Aruna Sanganté, d'Etienne Youté, voire peut-être même de Gauthier Lloris. Bon, finalement tout le monde est resté, donc il a bien fallu trouver une place pour Ayoumou Seco, et finalement le choix de le mettre devant la défense a été le bon. Et je pense que aux yeux du sélectionneur japonais, être titulaire dans un club de Ligue 1, ça compte aujourd'hui. Je pense qu'il voit aussi les performances d'Ayumu qui sont très très bonnes. D'ailleurs ses performances ont été saluées par pas mal d'observateurs, hein. C'est une des révélations peut-être du championnat. Voilà, maintenant est-ce que ça va lui permettre d'être titulaire avec le Japon? Il l'a été lors du dernier match amical. Est-ce qu'il le sera à la Coupe du monde? À suivre, mais je pense qu'il a une belle carte à jouer, ouais.
Mathieu.
Non, effectivement, lui, il sera à la Coupe du Monde, et j'espère du coup que Lionel Mpassi, qui est venu deux fois dans ses studios, il sera aussi,
Oui, parce qu'après, je vois pas trop d'autres joueurs.
Après, il y a la petite délégation peut-être sénégalaise quand même.
Éventuellement, oui.
Il y a une colonie, alors qui sera composée de
au moins Moridio, ça,
voilà,
c'est sûr.
Moridio, c'est sûr.
Ça va être compliqué pour les autres. Mais
Rasoul Ndiaye, s'il finit en boulet de canon, je le trouve bien. Il y a une grosse concurrence. Mais après, je pense que ça sera.
Après, ils seront en mode supporter de leur.
Non, ce sera tout. Mais bon, Mpassi.
Final, contre la Jamaïque, c'est dans la nuit de mardi à mercredi. Ce serait quand même d'avoir 2-3 voire 4 joueurs de l'effectif actuel à la Coupe du Monde, c'est aussi valorisant pour le club,
et pas si titulaire, parce que bon, Moridio c'est numéro 2, numéro 3,
on sait pas trop.
Pour Mpassi, il y a pas débat, il est titulaire, il a fait une très belle CAN. D'ailleurs, il avait enchaîné sur un très bel intérim au WAC. Non, vraiment, je pense que le WAC a la chance d'avoir deux très très bons gardiens.
Est-ce que le Maroc, on oublie, il n'y aura pas de joueurs à vrai dans la sélection, trop de concurrence là aussi
Non, je pense pas. Non, là c'est pas possible.
Même pour Sofiane Boufal.
Il a un peu. Alors après, il y a eu changement de sélectionneur. Ça peut-être redistribuer quelques cartes. C'est pareil, s'il finit fort, c'est possible. Mais bon, il y a un tel vivier au Maroc. Est-ce qu'il n'a pas pris un petit peu trop de retard? Après, sur ce qu'il montre, effectivement, on a le sentiment que il a faim, et je pense qu'il aimerait y retourner, forcément. Maintenant, je sais pas du tout ce que va décider le nouveau sélectionneur. Là, aucune idée. Quant à Yacine Keshta, je crois qu'il faut pas y penser un seul instant. Yacine a perdu sa place de titulaire.
Parce que j'ai l'air déjà vu le temps de jeu qu'il a actuellement.
Alors il est mieux en ce moment. Je trouve qu'il
aurait joué un rôle important quand même pour la fin de saison.
Ouais, tout à fait. Ouais, il apporte quelque chose. Je pense qu'au départ, il a du mal à prendre le fait d'être relégué sur le banc. Parce que ça faisait un moment qu'il était. Voilà, on savait que Keshta serait dans le 11 quoi qu'il arrive. Mais c'est pareil, il fait pas une saison exceptionnelle en termes de stats. Normalement, on peut pas lui reprocher son manque d'investissement, son manque de professionnalisme. Sur le terrain, il envoie. Sauf que pour un milieu à vocation un peu plus offensif quand même, en Ligue 1, il est attendu d'un joueur qui marque un petit peu plus, qui soit un peu plus décisif dans le dernier geste en tout cas, et ce qui a du mal faire Yacine.
Et on termine comme d'habitude avec le tour d'horizon des formations, des autres formations du HAC, à commencer par les féminines, toujours en quête de leur maintien, hein, en Arkema Première Ligue, défaite 2-1 face à Dijon le week-end dernier. Les Havraises qui sont 8e avec 17 points, 5 points d'avance elles aussi sur Saint-Etienne, Lens et Montpellier, les trois équipes en queue de classement.
Et ça se resserre un petit peu d'ailleurs dans le bas de tableau, parce que Montpellier a fait une belle opération dans un match un peu historique avec une affluence folle au Vélodrome, donc ça c'est pas encore fait.
Avec un joli but d'ailleurs, joli but de Montpellier pour l'ouverture du score, c'était très magnifique. C'est au bout d'une minute, non?
Une minute, ouais.
Une minute.
Juste un petit mot sur, je voulais votre avis rapide, mais sur ce record historique, la 35 713 personnes au stade Vélodrome pour aller voir l'OM. C'était exceptionnel que les filles de l'OM jouent dans le même stade que les garçons, ce qui n'est pas le cas au HAC, hein, puisque nous, le stade Océane est le stade référence pour les Havraises. Mais est-ce que c'est, on va dire, un nouveau signe, un bon signe? Après, on sait que le foot chez les filles, ça rapporte encore moins d'argent que chez les garçons.
C'était gratuit déjà.
Oui.
C'était gratuit, donc ça c'est une donnée aussi à prendre en compte. souviens des affluences records du Paris FC la saison dernière. Bon, c'était gratuit. Donc après, voilà, ça peut être une belle promo aussi. Voilà, un bon tremplin. C'est bien aussi de faire des opérations comme celle-ci. Après, c'était un one shot. Donc, on va voir si derrière c'est suivi d'effet. C'est vrai que le foot féminin a un petit peu de mal. Alors, c'est bien aussi que les clubs jouent dans leur stade. Alors, moi, il y a des moments où je me dis, il serait mieux à jouer à la cave, les filles, dans une ambiance un peu plus chaude. Voilà,
stade pelé, peut-être. Je sais pas. Il n'y a pas assez de spectateurs, peut-être.
Ouais, mais après, il y a autre chose à prendre en compte, c'est les images télé. C'est-à-dire que le diffuseur, il a pas envie aussi d'être au stade pelé, d'être à la Gagarine, d'être à la cave. Il veut un décor quand même qui a un peu de gueule, quoi. Donc, et ça, effectivement, alors. Il y a débat, filmer le stade Océane, un match de D1 avec 450 personnes. Est-ce que ça fait aussi la promo du foot féminin? J'en suis pas persuadé, c'est difficile parce que ils ont pas leur modèle, le modèle économique du foot féminin. Il n'existe pas. Hein,
Ouais, je trouve que ça posait pas trop de problèmes à l'époque où Guingamp évoluait encore en D1. Quand tu voyais leur stade, tu disais, c'était quand même pas une super vitrine non plus. Donc bon, ouais, je sais pas. Je suis un peu sceptique là-dessus, mais je pense que oui, ça peut être un effet d'annonce d'un match avec une belle affluence, mais est-ce que ça sera suivi d'effet? Je suis pas convaincu.
En tout cas, ça n'a pas vraiment porté les Marseillaises, puisqu'elles ont été battues par la Lanterne Rouge. Du côté de la formation, 2 victoires ce week-end, d'abord en Coupe des Réserves. Les garçons de Marcel Calongi qui s'imposent au tir au but en 8e de finale face à l'AG Caen après un match nul et vierge. Et on ne connaît pas encore le futur adversaire en quart de finale, puisque a priori les autres 8e ont lieu le week-end prochain.
Ce dimanche.
Ouais. Chez les U19 féminines, victoire 1-0 face à La Roche-sur-Yon. C'était la 6e journée de phase excellence. Les jeunes filles du HAC qui sont toujours deuxièmes à 5 points du leader, le Stade Rennais. Un grand merci, messieurs, d'avoir animé ce débrief 100% HAC autour de cette table en bois qu'on a entendu. Merci beaucoup, Benoît Donquel.
Merci à vous.
On vous lit donc dans Paris-Normandie. Vous serez bien sûr au Stade Océane dimanche 17h15 pour cette rencontre cruciale face à l'AJ Auxerre. Je salue les partenaires de ce podcast à nouveau, Luc Gallet du Courrier Cauchois et Mathieu Billot de footnormand.fr pour vous lire également cet épisode et tous les précédents. C'est à retrouver évidemment sur les sites de nos partenaires et sur tendanceouest.com, Deezer et Spotify. Fin de partie et à très vite pour un nouveau débrief.